CFM Villefranche, le mag.
Et allez, Zoupelin, le mag, oui alors, le chapeau, le lapin, et en studio, Karine Weck pour ce début de semaine. Bonjour Karine.
Bonjour David et bonjour à tout le monde.
Nutritionniste, diététicienne, historienne, coach chirurgienne, dentiste, voilà, tous les lundis.
Oui, voilà.
On parle d'alimentation avec vous, on regarde ce qu'on met dans notre assiette, et puis des fois, c'est des études, des fois, c'est des zooms sur un territoire, des spécialités. Il y a le menu aussi, faudra attendre encore un petit peu, deux semaines pour le menu du mois de juin. Mais aujourd'hui, vous savez de quoi vous allez nous parler? Quel sujet
Oui, je vais vous faire un petit quiz, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué.
Ah bah oui, jouons, jouons.
Ceci dit, pour le menu de mois de juin, n'attendez pas une tartiflette le soir, David, ça n'est plus la saison.
Non, écoutez, une salade avec de la feta, des oignons et puis des olives noires, ça m'ira. Salade grecque,
c'est
en fait,
sympa.
Au final.
Okay.
Tout à l'heure, c'est Waldo Stéphane qui prendra place. On va parler de médecine traditionnelle chinoise et Waldo est praticien en réflexologie plantaire également. Pour l'instant, quiz, jouons.
Et
comme depuis de nombreuses années, il n'y a rien à gagner.
C'est ça, exactement ça. Mais vous revenez toujours jouer, donc ça me fait plaisir.
Bah, je suis là, en même temps, je suis à domicile. Donc...
De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui choisis les sujets, donc voilà.
Alors oui, moi je me rappelle du quiz sur la Bretagne, mais improbable hein, ce quiz, parce que je me suis dit, putain, j'ai vraiment pas été bon là-dessus, donc j'étais voir, il y avait quand même plus simple, hein, c'était du
c'est
top
vrai.
Level. Hein,
bon, je vous ferai des quiz sur les autres régions, parce que je vois quand même que vous avez bien aimé. Il y a des rubriques comme ça qui reviennent tout le temps dans votre discours, David.
Celle-ci
en fait partie.
C'était sous le caillou droit à côté du dolmen. Qu'est-ce que l'on trouve dans un bled inconnu de tout le monde?
De vous, parce que vous n'êtes pas bon en géographie, quand même, il faut le préciser.
C'est pas faux. Moi, sorti de ma grotte, je suis perdu.
Voilà, c'est exactement ça, de vos bois. Bon, petit quiz, divers et variés.
Ah bon, comme ça, d'accord.
Voilà. Alors, non, pas divers et variés, plutôt sur des idées reçues sur l'alimentation. Je vous pose la question et puis je vous donne mon avis. Après, qui reste mon avis, la plupart du temps. Est-ce que d'après vous, David, le fait de manger en dehors des repas fait grossir?
Oui, le grignotage, oui, il y a des chances. Parce que si on mange en plus le repas des grignotages, oui, dans ce contexte-là.
Alors, dans ce contexte-là, je peux éventuellement vous rejoindre. Cela dit...
Mais si on fait que grignoter toute la journée et que ça constitue un repas, au final, on a juste étalé ces repas sur la journée. Donc,
Alors, effectivement, la première chose, ça va être de faire la différence entre ce qu'est un grignotage et ce qu'est une collation, un goûter, autrement dit.
Oui.
Hein. En tous les cas, ce qui est important quand même de savoir, c'est que il vaut mieux qu'on arrive à nos repas principaux, je veux dire, en ayant une faim normale, physiologique, j'ai envie de dire. Hein. On a mangé le midi, on digère, effectivement, le soir, on a faim, c'est normal. Mais si on doit arriver à notre dîner en ayant une faim de loup, comme on dit, ça va nous emmener sur des comportements alimentaires, et on en parlait la semaine dernière, il y a 15 jours, sur une vitesse d'ingestion et sur le fait de manger très très vite, sans prendre le temps de s'attacher à ses sensations alimentaires. Ça, effectivement, ça va nous emmener sur des quantités souvent plus importantes ou des aliments qui vont être plus riches, etc. Si on est ce genre de personne, tout le monde n'est pas concerné, mais en tous les cas, si on arrive au repas en ayant une faim de loup, on aura toujours intérêt à couper la demi-journée en deux en ayant une collation, alors évidemment en essayant d'espacer la fréquence de consommation des aliments les moins corrects au niveau nutritionnel, mais en tous les cas de se caler de manière à arriver avec un abord serein par rapport à notre repas. C'est un peu ce qui se passe pour les gens qui sont opérés de ces chirurgies bariatriques. Hein. Il faut qu'ils arrivent au repas en ayant une faim normale dans la mesure où leur quantité va être toute petite et que de toute façon, s'ils mangent de façon mécanique, s'ils mangent trop vite, bing, c'est susceptible de provoquer un petit malaise. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment ça. Je ne me retiens pas forcément de manger en pleine journée si j'ai vraiment faim, parce que ça peut être aussi source de je grignote un peu tout en cuisinant mon repas.
Ok, bon, ok, c'est quoi la réponse?
C'était faux. Hein, le fait de manger en dehors des repas ne fait pas forcément grossir, selon ce qu'on mange, d'accord?
Vous pourriez être un tout petit peu plus précis sur l'énoncé de vos questions, parce que
d'accord.
Je trouve que ça flotte un peu. Ça laisse,
je vais y penser. allez, une autre question. Les boîtes de conserve en métal préservent-elles, d'après vous, David, la qualité nutritionnelle de nos aliments?
Alors, je vais vous dire...
Bah dites-moi, j'attends justement.
Ça dépend si elles sont cabossées ou non.
Ah.
Si elles sont cabossées, attention, méfiance, ça veut dire que le produit est susceptible d'avoir bougé à l'intérieur.
Exactement. Disons cabossé égale possiblement à un petit espace qui laisse rentrer l'air. Et effectivement, on le sait, hein, les micro-organismes ont besoin d'oxygène pour se développer. Dans ces cas-là, effectivement, on peut se retrouver avec des intoxications qui sont très graves et cette maladie que vous connaissez probablement qui s'appelle le botulisme.
Ah non, je ne connais pas du tout le botulisme.
Bon, bah écoutez, prenez un dico et cherchez ce que ça veut dire. Cela dit, vous avez raison, qu'elles soient bombées ou qu'elles soient cabossées, les boîtes de conserve, en théorie, ne devraient pas être consommées.
D'accord ? Alors, j'ai bon ou pas ?
Alors, là, sur ce coup-là, vous avez bon. Je veux juste préciser que si c'est nous qui faisons tomber la boîte de conserve en la rangeant et qu'on la consomme de suite, il n'y a pas de risque, évidemment. En tous les cas, les boîtes de conserve en métal, bah oui, ça préserve bien la qualité nutritionnelle de nos aliments. Les protéines, les lipides, les sucres ne subissent aucune dégradation, en fait, par cette apertisation. Hein, c'est comme ça qu'on appelle cette méthode de mise en boîte de conserve.
Sauf si elle est cabossée. Et moi, j'aime bien le sauf.
Sauf. Mais vous êtes un peu pénible quand même avec votre sauf. aucune dégradation. Et quant aux vitamines, on peut imaginer qu'elles sont restées aussi dans la préparation, dans les légumes par exemple, parce que justement, c'est au niveau de la température de chauffage pour la cuisson, c'est très bref en fait et très rapide. Donc ça dégrade de toute façon toujours un petit peu les vitamines de faire cuire les aliments. Mais finalement, pas tant que ça et pas plus en tous les cas que dans des bocaux en verre.
Allez, une dernière.
Les enfants doivent absolument prendre un petit déjeuner, mais pas les adultes.
Les enfants. Bah, au fond. Autre question.
Allez, autre
sans
question.
Intérêt.
Peu importe les quantités que l'on absorbe, tant que l'équilibre alimentaire est présent.
Peu importe les quantités que l'on absorbe, c'est ça ?
Que l'on mange, oui.
Ouais.
Tant que l'équilibre alimentaire est présent.
Par exemple, on mange 3 kilos de salade. Forcément, l'apport ne sera pas le même que 5 steaks, admettons.
Alors, admettons, en effet, l'équilibre alimentaire, c'est une chose, on en parle souvent dans nos rubriques, mais il faut lier effectivement un petit peu la qualité de ce que l'on mange et les quantités que l'on absorbe, parce que si je schématise, on peut très bien être dans un parfait équilibre alimentaire, mais manger 3 fois moins par rapport à notre besoin, ou à l'inverse, 3 fois plus. Ou l'inverse, manger exactement ce dont notre corps a besoin en termes d'énergie, donc en termes de calories, mais complètement déséquilibré. Je schématise, une femme en France doit en théorie manger environ 1800 calories. On pourrait imaginer qu'elle ne mange que 1800 calories qu'avec du Nutella. On comprend bien dans ce cas-là que l'énergie apportée à son organisme serait cohérente par rapport à son besoin, mais pas du tout l'équilibre alimentaire.
Bah oui.
Voilà, donc il faut vraiment lier les deux en fait pour dire que l'on mange bien.
Voilà, on peut ponctuer ce quiz sur cette question. Merci Karine.
Avec plaisir, Vec. David, et à bientôt.
On vous suit votre actualité sur votre page Facebook Diet News. On retrouve l'intervention également sur le site cfmradio.fr et toutes les chroniques de ces derniers mois sur le site cfmradio.fr. La suite du programme, un peu de musique et Waldo Stephen en studio, praticien en médecine traditionnelle chinoise et en réflexologie plantaire. Karine Vec est déjà partie. Elle va manger avec sa copine pharmacienne. Elle range, elle est plus là, voilà. Ah, vous êtes revenu. Vous êtes improbable. C'est pas terminé, elle est déjà plus là.
Bon appétit, David. À bientôt.
Allez, belle journée à Waldo après la musique.
CFM, CFM Radio. Votre radio dans l'Aveyron. CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Allez, vous venez nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité, les lundis, vous le savez, santé, bien-être, fleurette, pâquerette et réflexologie plantaire et médecine traditionnelle chinoise avec Waldo Stephen pour cette deuxième partie et tous les 15 jours en alternance avec Didier Vallet. Hello, bonjour Waldo.
Bonjour David.
Ah, je crois qu'on va bricoler aujourd'hui, j'aime quand ça bricole, qu'il y a de la technique comme ça. On va parler de quelque chose qui est, il me semble, un peu oublié ou c'est peut-être un retour en force de cette technique que l'on appelle la technique des ventouses. On n'est pas loin de la moxibustion, là, hein, j'ai l'impression.
Tout ça, ça fait partie des procédés d'acupuncture. Donc, en fait, nous, quand on pense acupuncture, on pense aiguille, mais en fait, dans l'acupuncture, il y a le cupping, donc les ventouses, la moxibustion. Il y a plusieurs choses, en fait, dans l'acupuncture. Il y a un petit proverbe ancien chinois qui dit que si on a des aiguilles et des ventouses chez soi, on n'a pas de maladie.
Une séance de ventouses par jour éloigne le médecin pour toujours. Ça marche avec tout, c'est complètement dingue.
Il a lu bien sa phrase.
Les ventouses, par quoi on commence? Peut-être un peu d'histoire, parce qu'on a l'impression que ça remonte un peu. Hein.
Mais alors le cupping, comme on dit le cupping en anglais, parce que c'est vrai qu'en français, il n'y a pas trop le terme. On n'a pas trop le terme. On ne peut pas dire le ventousage, c'est pas très joli. Mais l'utilisation des ventouses, donc les ventouses, c'est un outil de la médecine traditionnelle chinoise. Et ça a été l'outil de beaucoup de soignants, de thérapeutes, de maîtres de l'époque. Hein. Les ventouses, ça existe depuis très longtemps. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent les ventouses en Occident, en France, tout ça, parce que souvent, les grands-parents, ils utilisaient les ventouses pour se soigner, pour soulager des bronchites, de la toux, en les plaçant sur le dos. Donc, c'est quand même assez connu. Et c'est vrai que, après, quand on regarde un petit peu le dictionnaire, quand on prend la définition du petit Larousse, on voit ventouse, objet en verre qui était utilisé, donc c'est vraiment à l'imparfait, et c'est comme si effectivement ça avait disparu aujourd'hui, alors que c'est remis au goût du jour par les praticiens en médecine traditionnelle chinoise, et aussi c'est pas rare de voir des gens qui font des mélanges un peu thérapeutiques, et puis qui vont inclure le cupping, comme on dit en anglais, cupping therapy, qui permet en fait d'utiliser les ventouses. Et donc, les ventouses, c'était utilisé dans la civilisation grecque, ça a été utilisé à Rome, ça a été utilisé en Égypte. Donc en fait, une ventouse, comment ça marche? Donc généralement, c'est un objet en verre, donc on peut se servir des verres qu'on a chez soi. Alors je rappelle qu'il vaut mieux le faire faire par quelqu'un qui connaît, qui a de l'expérience. Pas forcément un professionnel, mais quelqu'un qui le fait, qui a de l'expérience, parce qu'on peut quand même... On peut se tromper, hein, on peut se brûler aussi avec les ventouses. Donc en fait, la ventouse, c'est un objet en verre, hein, même s'il y en a en bambou, en Asie, ils utilisaient les bambous, on pouvait utiliser, en Égypte, je sais qu'ils utilisaient aussi la faïence, les points en terre cuite. On peut utiliser les verres qu'on a chez soi, une tasse, on peut utiliser en fait n'importe quel petit contenant. Et en fait, la technique en elle-même, c'est très simple, c'est qu'on va vider l'air de cet objet, de ce contenant, pour le placer sur la peau, et ça va créer une succion. Voilà, cette succion va être bénéfique, donc on va expliquer pourquoi. Donc pour enlever l'air d'un verre, par exemple, on va tout simplement mettre un bout de coton dans de l'alcool, on va le tenir avec une pince, on va l'allumer, on va faire le tour de l'objet en verre, et ensuite on va allumer la ventouse. Ça va créer
un vide
d'air, tout simplement, et en fait dès qu'on va le poser sur la peau, ça va faire une succion. Voilà, c'est ça, tu fais le bruit. Exactement. Donc là c'est quand même ça fait pas toujours ce bruit là quand même. Et effectivement, on va laisser ça pendant 10 à 20 minutes et ça va produire des effets. Donc des effets, globalement, ça va permettre de drainer les liquides, ça va permettre d'améliorer la circulation du sang. Donc en médecine chinoise, on dit on va chercher aussi le yin en profondeur, les problèmes du yin, hein, donc ceux qui ont suivi un peu les émissions sur le yin et le yang, vers l'extérieur, vers le yang, on va faire sortir un petit peu le froid, par exemple. Donc le froid, ça concernerait quand on a une bronchite, tout ça, on va avoir les poumons qui vont surcharger. On peut placer des ventouses sur le dos pour justement drainer un petit peu les mucosités du poumon. Et donc ça marche d'une manière assez spectaculaire. On va utiliser les ventouses aussi, par exemple, dans le milieu du sport. Donc dans les milieux du sport, il y a vraiment énormément de personnes qui utilisent des ventouses et des personnes très connues. On a par exemple la personne qui a, comment il s'appelle, Michel Phelps, je crois, qui est multi médaillé des Jeux Olympiques à la nage. Donc c'est une star hein, quand même. Et il a fait parler de lui parce qu'il avait des ventouses, il avait des ronds rouges en fait dus à la succion de la ventouse sur tout le dos pour les Jeux Olympiques. Donc ça a toujours un effet marquant quand on voit quelqu'un qui a fait du cupping. On dit qu'est-ce qui se passe quoi. Il s'est fait taper.
Il a des pratiques.
Il a des pratiques bizarres. Bon. Voilà. Et donc ça interpelle. Et donc on a des boxeurs aussi par exemple. En fait c'est des personnes qui ont un niveau de sport qui est quand même hallucinant et qui déclarent ouvertement, ils le disent aux journalistes hein, parce que souvent on demande comment vous faites pour faire ce type d'exploit et donc c'est voilà c'est j'ai retrouvé donc c'est Phelps voilà Michael Phelps qui utilise les ventouses, donc c'est le nageur le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques et il révèle donc aux journalistes qu'il utilisait les ventouses pour récupérer et améliorer les performances. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire du sport, en fait, on va favoriser le métabolisme du glucose. Les muscles, en fait, ils vont
créer du déchet, peut-être.
Ils vont créer du déchet, ils vont créer de l'acide lactique. Et cet acide lactique, en fait, il va encombrer les tissus. Voilà. Et avec les ventouses, en fait, on a de très bons résultats sur justement le fait de faire circuler ces liquides. Voire de les extirper un peu du corps. Voilà. Donc on a vraiment plusieurs utilisations. Il y a plusieurs pathologies pour lesquelles on va pouvoir utiliser les ventouses. Généralement, ça va marcher énormément sur tout ce qui va être... Voilà, pour ceux qui comprennent un peu la médecine chinoise, ça va être sortir le vent, chasser le froid, chasser même le chaud. On va pouvoir vraiment dégager la couche externe, le Wei Qi, hein, c'est la couche protectrice du corps, la couche énergétique protectrice du corps, grâce aux ventouses. On peut aussi utiliser beaucoup les ventouses pour tout ce qui va être coups et blessures. Voilà. C'est pour ça que ça s'utilise aussi, un peu comme la moxibustion et l'acupuncture, ça s'utilisait aussi dans les temples d'arts martiaux comme moyen de soigner. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, je le disais, je pense, une dernière émission, c'est que les ventouses, c'est aussi, et je tiens toujours à préciser ça, parce que ce sont des techniques de soins de l'Antiquité, c'est aussi une méthode de soins qui est adaptée à tout type de portefeuille, en fait. Parce que, comme on dit, on peut se soulager énormément avec 4, 6 verres qu'on a chez soi. Il suffit d'aller dans la cuisine, de prendre des verres. Bon, je ne vous dis pas de le faire, hein. Faut faire attention qu'il y ait pas de... les verres ne soient pas cassés, il faut faire attention. Enfin, ça ne se manipule pas comme ça non plus, mais presque un enfant pourrait apprendre à faire des ventouses, tu vois. Donc, en fait, c'est aussi une médecine du pauvre, quelque part, et j'aime bien, en fait, parler de ça, parce que la moxibustion, l'acupuncture, tout ça sont la médecine traditionnelle chinoise, le massage, c'est une manière de faire... de soigner sans forcément dépenser... des milliers d'euros. Voilà, donc les ventouses, vraiment super outil de pratique thérapeutique, on peut s'en servir un peu pas comme on veut, il y a aussi des contre-indications, bien sûr, hein, on va pas faire des ventouses sur les petits de moins de 4-5 ans, c'est, voilà, sur les enfants trop jeunes, on va pas faire de ventouses sur les femmes enceintes, surtout au niveau de l'abdomen, bien sûr, on va faire les ventouses plutôt pour les personnes de bonne constitution qui ont une plénitude musculaire, par exemple, comme les sportifs. Et on va faire aussi sur les personnes qui ont une maladie, par exemple, de saison, qui est... Voilà, les maladies dont on a entendu il n'y a pas longtemps, par exemple, ça peut se faire.
Ah ouais, d'accord. Et juste, la ventouse, on la laisse combien de temps? C'est quand ça vire au violet, là, on s'inquiète un peu, on se dit, oula, bleu-violet, c'est, ça commence à être...
Ouais, on dort pas avec, ça c'est sûr. Ouais. Mais effectivement, les ventouses, faut les laisser un certain temps. Après, ça dépend de la force du problème qu'on a aussi. Hein. Ça, alors, il y a pas obligé de travailler très longtemps. Hein. Des fois, il vaut mieux faire plusieurs fois dans la journée, hein, deux fois dans la journée. Mais par exemple, il faut faire attention aussi avec l'intensité, parce qu'effectivement, si on travaille trop fort avec les ventouses, bon, on va avoir des ronds violacés et on peut même avoir des cloques dans le dos. Donc, il faut vraiment y aller quand même avec parcimonie. Alors, il y a les ventouses traditionnelles. Aujourd'hui, dans certains pays, comme je disais, ils utilisaient aussi les ventouses en bambou, en terre cuite, tout ça. Et il y a aussi des kits ventouses avec des vis, en fait, qui, qui permet de doser, en fait, la force de succion, en fait. Et donc, ça peut être recommandé pour quelqu'un qui débute, pour ne pas ça tire la peau quand même. Hein. Il y a des personnes qui sont très sensibles de la peau et donc il faut y aller tranquille. Après, le cupping aujourd'hui, c'est vraiment aussi, ça s'utilise en esthétique hein, de plus en plus. On utilise beaucoup, parce que bon, là on parle des ventouses, c'est vrai que d'un point de vue traditionnel, on va soigner avec quelque part, mais on va se servir aussi des ventouses comme manière de faire circuler en fait la couche entre la peau et les muscles. Donc c'est là où il y a le tissu adipeux qui peut se former, et notamment les femmes connaissent bien la cellulite et souvent elles ont envie de trouver un moyen en fait de la diminuer. Donc les ventouses, on peut utiliser les ventouses pour ça. Alors soit en application directe où on laisse la ventouse poser 10-20 minutes, hein, comme je disais, soit aussi on peut masser avec les ventouses, hein, c'est ce qu'on appelle aussi un peu le gua sha en médecine chinoise. C'est qu'on va poser la ventouse, on va avoir huilé un petit peu la peau avant, et ensuite on va faire glisser la ventouse sur les parties qu'il faut travailler. Alors c'est pas des plus agréables, faut le subir, hein, mais ça a des résultats assez, assez intéressants. Et quand on va faire une perte de poids, ça peut être bien aussi de travailler avec les ventouses pour raffermir les tissus, libérer les adhérences en fait, entre les tissus, favoriser en fait, le passage du chi, de l'énergie entre les muscles et la peau, et entre les tissus conjonctifs. Donc ça va vraiment être utilisé aussi dans les cabinets d'esthétique. On voit aujourd'hui des par exemple pour le je sais pas, je parlais du Kobido, le massage japonais du visage, ils utilisent aussi des mini ventouses qu'on pince en fait, ils sont en plastique, ils sont très souples, et on vient en fait travailler pour tout ce qui va être voilà, le côté massage liftant du visage. On peut utiliser aussi les ventouses pour stimuler en fait la peau et diminuer les signes de l'âge. Encore une utilisation des ventouses, alors moins thérapeutique, mais orientée un petit peu beauté.
Tout de même, voilà. Vous êtes dans les soins à l'ancienne, hein, avec les bains de pied il y a deux semaines, les ventouses cette semaine, c'est parfait, parce qu'en plus, sensiblement, ça fait du bien et ça marche. Une citation pour peut-être terminer cette intervention du jour.
Oui, alors j'ai une petite citation. Alors là, j'ai choisi une petite citation de Lao Tzu. Donc Lao Tzu, philosophe chinois qui a été un des précurseurs du taoïsme en Chine. Donc j'aime bien cette phrase. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre de l'obscurité.
Petite lampe que de se plaindre de l'obscurité. Ça va nous faire la semaine, ça, voire peut-être même deux.
C'est un peu. Y a l'abbé Pierre aussi qui a un petit peu. Ce genre de citation aussi. Mais là, c'est Lao Tzu. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ça parce que c'est sympa.
Eh bien, voilà, on suit votre actualité sur le site zudao.fr, Z-U-D-A-O, nom d'un chameau. En plus, ça rime. Merci, Waldo. Dans deux semaines.
Merci.
CFM Radio. Votre radio dans l'Aveyron.